cogestime.ch.
La matinale en tout temps sur l'application Play RTS. Infotrafic RTS.
Des retards de près d'un quart d'heure sont signalés sur l'A1 Yverdon-Lausanne entre l'échangeur d'Yverdon et Chavornay en direction de Lausanne et sur l'A9 Vevey-Lausanne entre Chèbre et Veynes en direction de Lausanne.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Vous aimez la pluie, Pietro Bignon ?
Pas tellement, non.
Non, bon, bah alors, il faudra faire avec quand même aujourd'hui. On nous annonce beaucoup de pluie, des averses parfois orageuses. Peut-être quelques éclaircies à la mi-journée, des températures maximales de 20 degrés.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Je vais aller faire une petite aposiopèse.
Non, mais très bien, lancez-vous dans des aposiopèses. Allez, c'est l'heure de Tout un monde. Bonjour Cédric Guigon.
Bonjour Eric.
Et ben bonne journée, bonne émission.
Et ben merci, bonne journée à vous. Vous êtes sur RTS Première, il est 8h01. Et on commence par le journal d'Audrey Mondy. Bonjour Aude.
Bonjour.
À la une ce matin, une lave torrentielle vient de tomber sur Lourtier.
Moins d'un an après de sévères intempéries, ce village du Haut-Val-de-Bagne fait de nouveau face à des coulées de boue. On fait le point dans quelques instants. Ce fut très serré en Pologne. Le nationaliste Karol Nawrocki a remporté cette nuit l'élection présidentielle face à son rival pro-européen. Une victoire aux allures de rupture dans une société très polarisée. Et puis les étoiles, elles aussi ont droit à un peu de musique classique. On vous emmènera dans l'espace écouter une très célèbre valse.
Les étrangers pourront-ils encore étudier aux États-Unis à la rentrée prochaine ? L'administration américaine a suspendu le traitement de leur visa dans tout un monde. On va essayer de comprendre pourquoi Donald Trump utilise notamment ces moyens-là pour s'attaquer aux grandes universités américaines.
On vient de l'apprendre, une lave torrentielle est tombée ce matin dans le Haut-Val-de-Bagne. La route entre les villages de Champsec et Lourtier a été coupée. Lourtier et les Hauts-de-la-Vallée isolés comme l'été dernier lorsque les éléments s'étaient déjà déchaînés. Émilien Verdon, on vous retrouve en direct de Sion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui ?
On a encore très peu d'informations pour l'instant. Ce que je peux vous dire, il était 6h15 ce matin lorsque les mauvais souvenirs de l'été 2024 sont redevenus réalité. On entend l'extrait d'une vidéo amateur. Une lave torrentielle, le torrent de Fregnolet s'est déchaîné. On y voit déjà un tas de boue. Et puis surtout, le pont fusible reliant les villages de Champsec à Lourtier a été emporté. Le Haut-Val-de-Bagne, comme l'année dernière, se retrouve une fois encore bloqué. Pour l'instant, les habitants ne peuvent plus descendre dans la vallée. Difficile de savoir à l'heure où je vous parle les causes. Peut-être les précipitations des dernières heures. Les autorités évaluent maintenant combien de temps ça va durer. Elles doivent se rencontrer à 9h pour faire le point. Un petit itinéraire de substitution avait été créé, mais il n'est pas encore ouvert. Il faut maintenant évaluer s'il est sécurisé.
Merci Émilien Verdon. Et pendant ce temps à Blaton, on pense déjà à la reconstruction. Depuis l'effondrement la semaine dernière du glacier de Birch, le président de la commune affiche sa volonté de rebâtir un village. Mais est-ce possible ? Faut-il faire le deuil d'un paysage ? Les habitants s'interrogent et imaginent déjà un avenir, Déborah Solbank.
Jeudi, lendemain de la catastrophe, Klaus Rittler de Blaten contemplait abattu l'immense cône de débris sous lequel se trouve désormais son village. À 59 ans, il n'a connu que Blaten et selon lui, les jeunes générations ne vivront pas la même douleur que lui et ses contemporains.
C'est beaucoup plus difficile que pour les deux générations plus tard, qui n'ont pas connu l'ancien et n'auront vu que des images de Blaten. Ils s'en sortent beaucoup mieux que nous, les plus anciens.
Cette situation sera la nouvelle norme un jour.
Exactement, ils voient ça comme des petits-enfants aujourd'hui et ensuite cette vue sera normale.
Cette vue, Mathias Belvald, président de Blaten, espère au contraire qu'un jour elle n'existera plus.
Je pense que si ce cône de débris devient vert, alors personne ne saura dans 10 ans que c'est une montagne de gravats. Mais l'objectif est bien sûr que nous puissions rapidement déblayer le village. D'abord, bien sûr, il faut sécuriser pour que nous puissions y travailler. Ensuite, il nous faudra une alimentation en eau, la steppe est très importante, l'électricité. Si nous pouvons nous y mettre rapidement avec l'accord de l'autorité de surveillance des dangers naturels, alors nous pourrons créer des conditions nécessaires à la construction rapide de nouveaux logements.
Reconstruire sur le même site, pour certains, cela semble utopiste. Les experts estiment que la couche de débris a une épaisseur comprise entre 50 et 200 mètres. Impossible dans ces conditions de tout évacuer. En tous les cas, Mathias Belvald compte présenter une feuille de route pour la reconstruction de Blaten le 12 juin, date de la prochaine assemblée communale.
La capacité d'approche des avions à l'aéroport de Genève est réduite ce matin de 20% et ce, jusqu'à nouvel ordre. Skyguide, la société de surveillance de l'espace aérien suisse, fait face à un problème technique latent. Ces derniers mois, elle a déjà connu plusieurs pannes d'un système fournisseur de l'image radar. Des retards de vol sont à prévoir.
En Pologne, le nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle d'hier.
Les résultats officiels du second tour étaient très serrés. Ce matin, c'est confirmé. Le candidat conservateur a obtenu près de 51% des voix, suffisant pour battre le maire libéral de Varsovie. C'est un changement dans la continuité, puisque Karol Nawrocki succède à un président lui aussi nationaliste. Mais cette victoire constitue aussi un élément de rupture dans une société polonaise très polarisée, avec un gouvernement pro-européen et progressiste. C'est l'avis de Dorota Dakowska, spécialiste de l'Europe centrale et orientale à Sciences Po Aix-en-Provence.
Le président dispose d'un droit de veto et donc c'est un droit de blocage, de nuisance peut-on dire. Le président Duda en a utilisé mais de manière relativement sporadique, plutôt rare, mais le gouvernement n'a pas osé mener à bien les réformes annoncées comme par exemple la libéralisation du droit à l'IVG, à l'avortement ou alors des droits accordés pour les personnes LGBT de peur de ce veto présidentiel. Donc le gouvernement libéral attendait un changement qui ne viendra pas et le nouveau président risque d'être plus radical que le précédent. Il est novice en politique, il a un profil plus radical. On peut dire que la société polonaise est scindée en deux. Alors cela indique une polarisation très forte de la société polonaise et de la scène politique, mais aussi une droitisation. On pourrait même parler d'une trumpisation.
Dorota Dakowska, invitée tout à l'heure de la matinale. Jamais l'armée ukrainienne n'avait frappé si loin du front. Hier, une vaste attaque de drones a touché plusieurs aérodromes militaires en Russie, dont certains situés en Sibérie et dans l'Arctique. Selon une source ukrainienne, Kiev a caché des drones dans des conteneurs de transport et serait parvenu à toucher 41 avions utilisés par la Russie pour bombarder des villes ukrainiennes. Cette attaque intervient alors que les deux pays se retrouvent aujourd'hui à Istanbul pour des pourparlers. L'objectif reste un accord de paix, mais les espoirs sont minces. Une précédente rencontre mi-mai en Turquie s'était soldée par un échec. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame un face-à-face avec Vladimir Poutine, option pour l'heure écartée par le président russe. Notre correspondante à Ankara, Anand Lauer.
La dernière réunion d'Istanbul n'avait pas été très fructueuse. Elle n'avait abouti qu'à un échange de prisonniers, certes important, mais les Ukrainiens étaient repartis sans un cessez-le-feu. La délégation russe avait refusé de négocier la trêve complète et inconditionnelle à laquelle l'Ukraine se dit prête. Elle avait demandé aux négociateurs ukrainiens de lui présenter par écrit leur vision d'un tel cessez-le-feu. Les chances d'y parvenir au cours de cette deuxième rencontre sont infimes. Le président russe Vladimir Poutine affirme d'ailleurs qu'une cessation des combats n'est possible qu'après des négociations sur ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre, référence à une série de demandes maximalistes du Kremlin. À Istanbul, ce lundi, la Russie est censée présenter un mémorandum qui détaille ses conditions pour un accord de paix. Son refus de communiquer cette note avant la rencontre est le signe pour Kiev que Moscou n'a pas l'intention de faire progresser les pourparlers et s'obstine à lui soumettre des exigences inacceptables. Après la dernière réunion d'Istanbul, l'Ukraine avait notamment accusé la Russie de lui demander de céder de nouveaux territoires pour instaurer un cessez-le-feu. Anand Lauer, RTS, Ankara.
En football, le FC Bâle a fêté hier un doublé. Après leur victoire en championnat, les Rennais ont remporté 4-1 la finale de la Coupe de Suisse. Face à eux, des valeureux biennois clubs de 3e division qui ont réussi l'exploit de se hisser à ce niveau de la compétition.
Et on termine par un concert dans l'espace.
C'est un drôle de featuring. Le compositeur Johann Strauss, fils, est né il y a 200 ans. L'Agence spatiale européenne, elle, fête ses 50 ans. Pour l'occasion, l'Orchestre symphonique de Vienne a joué le Beau Danube bleu. La célèbre valse a été envoyée dans l'espace et retransmise aussi en direct sur un écran géant dans la capitale autrichienne. Reportage d'Isorias.
Ils sont plus d'une centaine à être rassemblés devant l'écran géant d'un bar en plein air quand enfin l'orchestre symphonique joue le Beau Danube bleu direction l'espace. Inga est ravie d'assister à cet événement.
C'est extraordinaire et totalement inattendu. Je trouve l'idée géniale. Je trouve que quelqu'un l'entend de là-haut, c'est poétique. Et il fait beau, nous sommes au bord du canal du Danube. C'est presque le Beau Danube bleu.
Cette valse est une part de l'identité des Viennois qui sont donc fiers, à l'instar de Tim Doctor de l'Orchestre symphonique de Vienne, de savoir qu'elle rayonne désormais au-delà de la Terre.
C'est un bout de Vienne qu'on envoie et bien sûr aussi davantage. C'est un message d'humanité car la musique est quelque chose chose d'émotionnel qui a toujours caractérisé l'homme et désormais il est techniquement possible d'aller au-delà même de l'humanité.
Le morceau a dépassé la Lune en 1 seconde et demie, Jupiter en 37 minutes et atteint Voyager 1, la sonde la plus éloignée de la Terre, en 23 heures. Joseph Aschbacher est le directeur de l'Agence spatiale européenne.
Ça montre que nous avons une expertise unique en musique et en art, mais aussi que l'Europe est très bonne dans la technologie spatiale, que nous avons des capacités. Ce sont deux domaines où l'Europe est excellente et il faut le montrer.
Et le beau Danube bleu est déjà l'hymne officieux de l'espace depuis que Stanley Kubrick l'a utilisé dans son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Isorias, RTS, Vienne.
Et puis si des extraterrestres nous écoutent, eh bien sachez que le morceau qui a atteint la sonde Voyager 1 est aussi arrivé dans un disque en cuivre plaqué or avec quelques instructions pour vous extraterrestres si vous avez besoin d'apprendre à lire ce type de document.
Eh ben c'est pas mal, voilà, ils sont prévenus. Merci voilà. Aude, c'était votre journal et à demain, il est 8h10 sur RTS Première.
Tout un monde, Cédric Guigon.
La libre parole ne peut pas être un danger pour la démocratie.
Qu'en sait-on ? Tant de prévisions ont été démenties.
C'est une possibilité, pas une garantie.
Bonjour, les étrangers pourront-ils encore étudier aux États-Unis à la rentrée prochaine ? Le traitement de leur visa a été suspendu la semaine passée, un moyen pour Donald Trump de s'attaquer aux grandes universités américaines. La Syrie, sans Bachar el-Assad, ça fait 6 mois que la dictature est tombée, tout un monde lance une série de reportages pour faire le bilan. Écoutez le chant des oiseaux dans votre jardin ou celui des cachalots dans la mer pour mieux comprendre notre planète. On vous dit tout sur la bioacoustique. 3, 2, 1. Donald Trump fait trembler les universités américaines. Il coupe dans les fonds de recherche et il s'attaque à leurs étudiants étrangers. De quoi faire planer une menace sur l'attractivité, mais aussi l'équilibre financier de ces institutions. Des centaines d'étudiants étrangers ont déjà vu leur visa révoqué. Et la semaine passée, l'administration américaine a tout bonnement suspendu le traitement de leur visa pour passer au crible leurs réseaux sociaux. Une université est la cible en ce moment des attaques de la Maison Blanche. Et ce n'est pas n'importe laquelle. Harvard, accusé d'antisémitisme ou de former au militantisme de gauche pour plus d'inclusion et de diversité, le gouvernement américain veut ainsi mettre l'université la plus prestigieuse du pays sous tutelle. Bonjour Jordan Davis.
Bonjour Cédric.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Harvard refuse de se soumettre aux injonctions de l'administration Trump et devient symbole de la résistance.
Oui, et ça se voyait la semaine dernière, Harvard organisait sa cérémonie de remise de diplôme. De 2025 réunis sur le campus, habillés de toges et de chapeaux carrés, une tradition vieille de presque 400 ans. Cette année, pourtant dans le contexte d'un conflit ouvert avec le président des États-Unis, l'administration Trump venait d'annoncer la suppression de tous les fonds fédéraux destinés aux projets de recherche scientifique sur le campus. Et à l'heure de la cérémonie, les avocats de l'université se battaient devant la justice contre l'annulation de tous les visas pour les étudiants internationaux chez Harvard.
Members of the class of 2025.
Et le président Alan Garber y a fait référence en saluant les étudiants venus de près, de loin et du monde entier. Un soutien appuyé aux étudiants internationaux qui représentent un tiers des effectifs sur ce campus.
Around the world, just as it should be.
Les étudiants qui viennent de partout dans le monde, comme ça devrait être le cas, dit Alan Garber, acclamé. Un président d'université qui tient tête à l'administration Trump, dit Vincent Ponce, un Français, professeur d'économie politique au Harvard Business School.
Il me semble que la brutalité et la violence de ces attaques est inédite, avec pour objectif d'exercer une ingérence très forte sur la sélection d'étudiants et sur le recrutement de professeurs, notamment pour s'assurer que le profil idéologique de ces étudiants et de ces professeurs correspond à ce que souhaite l'administration.
Jordan, pourquoi Donald Trump s'attaque à Harvard ?
Bon, son administration, son département de justice menace de poursuivre les universités qui n'ont pas, à ses yeux, assez fait pour arrêter les manifestations pro-palestiniennes sur les campus et qui ne se soumettent pas à des conditions posées par l'administration pour protéger les droits civiques. Caroline Levitt est porte-parole de la Maison-Blanche.
Les étudiants de confession juive ou de n'importe quelle religion ne devraient pas être harcelés et ciblés sur les campus universitaires de notre pays. Et on a vu des discriminations illégales à Harvard. Et on ne devrait surtout pas financer une institution où un antisémitisme aussi grave existe.
Et il y a quelques semaines, Harvard a livré ses propres conclusions sur les événements sur le campus depuis octobre 2023. Il y a eu des actes antisémites, mais aussi islamophobes identifiés, et que l'université l'université estime ne pas avoir assez pris au sérieux. Mais il y a un sentiment sur ce campus aussi que l'antisémitisme ici sert de prétexte. Les universités d'élite sont en ligne de mire du mouvement conservateur aux États-Unis depuis longtemps, accusées d'être des bastions d'indoctrination gauchiste. Et Donald Trump semble se délecter de ce bras de fer avec l'institution universitaire la plus sélective du pays.
Harvard wants to fight. They want to show how smart they are, and they're getting their ass kicked.
Harvard veut se battre, montrer qu'elle est plus intelligente. Or, et je modifie ses propos pour ne pas dire de vulgarité à l'antenne, Harvard se fait botter les fesses.
Ouais, est-ce que d'autres universités pourraient se retrouver en ligne de mire?
Bah, Columbia, l'université privée à New York, s'est déjà pliée aux exigences de l'administration Trump. Et selon Chris Glass, professeur du domaine des études supérieures à Boston College, les leaders d'autres universités commencent à se coordonner discrètement pour faire face aux pressions politiques.
Le destin de tout le secteur universitaire est en jeu. Cette coordination montre une prise de conscience. Si Harvard tombe, votre université est la prochaine sur la liste. Et puis il y a l'inquiétude qu'une défaite de Harvard n'est pas juste celle d'une institution, c'est une défaite pour la liberté intellectuelle qui a caractérisé l'enseignement supérieur américain et qui fait que l'économie américaine est un leader et qui fait également la force de la science dans ce pays leader mondial en collaboration scientifique.
Jordan, à quoi va ressembler la rentrée universitaire américaine? Est-ce que les étudiants étrangers pourront aller aux États-Unis?
Bon, Harvard a réussi à suspendre la tentative fédérale d'annuler tous ses visas, mais comme vous l'avez dit, l'administration Trump a lancé un gel temporaire de tous les entretiens de visas d'étudiants pour toutes les universités américaines. Le secrétaire d'État Marco Rubio dit vouloir mettre en place des contrôles plus systématiques des comptes des réseaux sociaux de futurs étudiants pour débusquer des apologies au terrorisme ou a-t-il laissé entendre des propos critiques de l'État d'Israël. On a aussi annoncé la semaine dernière l'annulation de visas d'étudiants liés au Parti communiste chinois. On n'a pas beaucoup de détails, mais les États-Unis sont la destination numéro un des étudiants étrangers. Ils étaient plus d'un million l'année dernière. Et il y a un faisceau de propos émanant de cette administration qui indique une véritable intention de réduire le nombre d'étudiants qui arrivent. Or, ces étudiants payent souvent plein tarif et sont une manne essentielle pour beaucoup de campus. Et c'est donc un levier de pression supplémentaire de la part de la Maison-Blanche sur le monde universitaire américain.
Jordan Davis, notre correspondant aux États-Unis. Merci.
Il aura fallu seulement 12 jours pour que l'offensive éclair des rebelles djihadistes entraîne la chute de Bachar al-Assad.
Partout les mêmes scènes, dans les villes, les villages conquis par les rebelles. Symboliquement, les statues et les portraits tombent.
Le dirigeant de facto, Ahmed al-Sharah, a été nommé président pour la transition.
Dès sa prise de pouvoir, il nomme une femme à la tête de la banque centrale du pays, Maïssa Sabrine, et promet une relative liberté de culte pour les chrétiens.
Une rencontre historique entre le président américain Donald Trump et son homologue syrien Ahmed al-Sharah.
We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know.
6 mois après la chute de Bachar al-Assad et la fin de 13 ans de guerre civile, c'est un tournant spectaculaire pour une Syrie à l'économie exsangue.
Quel bilan pour la Syrie 6 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad. Toute cette semaine, on vous propose une série de reportages de notre correspondante Manon Chaplin, Syrie, les voies du changement. Premier épisode ce matin avec le retour de la culture. Durant les décennies de dictature, les initiatives artistiques et culturelles étaient gelées, voire réprimées. Le régime craignait d'y voir une brèche vers une possible critique du pouvoir. Depuis la chute du clan Assad il y a 5 mois, il y a même 6 mois, la vie culturelle reprend son souffle. Les artistes en exil sont retour à Damas, la capitale, même si certains craignent que le conservatisme d'une partie du nouveau pouvoir ne vienne les contraindre à leur tour. Reportage Manon Chaplin.
C'est par des pétales de rose que le chanteur Samir Choukair et sa fille Anna sont accueillis au pied de leur immeuble dans la banlieue sud de Damas. 15 années qu'ils n'ont pas mis les pieds ici, 15 années loin de leurs voisins, de leurs amis, 15 années qu'Anna n'avait pas pu mettre la main sur ses précieux albums de famille. Derrière elle et toutes ses photos, son père est mis aux larmes.
15 ans, c'est long, surtout quand tu as la crainte constante de ne jamais revenir. Même en ce moment, alors que je vous parle, j'ai
encore l'impression de vivre un rêve.
Samir Choukair, 68 ans aujourd'hui, a comme beaucoup d'artistes à la veille de la Révolution pris le chemin de l'exil. Dès les années 80, il subit des pressions du régime, souffre du manque de liberté d'expression et est contraint dans l'écriture de ses chansons. En 2010, il se réfugie à Paris, compose « Yahef, quelle honte » en français. Comme un avertissement pour le régime et sa répression, il n'imagine alors pas qu'elle deviendra en Syrie l'un des hymnes de la Révolution.
J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple chanson, mais d'une bombe. J'ai été profondément ému par une phrase qui m'a souvent été rapportée de la part des prisonniers. Ils me disaient que, dans leur cellule, cette chanson leur avait ouvert une fenêtre sur l'extérieur, une fenêtre sur le monde.
Le jour de la chute du régime, scotché devant sa télévision, Samir Choukair ne rêve que d'une chose, revenir chez lui en Syrie pour chanter sa chanson. C'est désormais chose faite. À Damas, après des décennies de censure, les artistes en exil reviennent des quatre coins du monde pour donner un nouveau souffle à la capitale. Des chanteurs, intellectuels, écrivains et des comédiens. Sharif Homs, 33 ans, est revenu dès 2022 pour créer son comedy club Styria.
J'avais une manière très intelligente de faire des blagues sur Assad. Dans le public, tout le monde retenait sa respiration, puis rigolait avec peur. Je le sentais.
Depuis la chute du régime, chaque spectacle fait sale comble. Les blagues parlent d'amour, parlent d'intime, parlent enfin de politique.
Je n'ai jamais aimé les frontières, les restrictions, les lois, les gouvernements. Vous savez, maintenant je me sens vraiment libre quand je suis sur scène. Je peux vraiment dire tout ce que je veux.
Un nouveau souffle, pas totalement exempt de pression. Il y a quelques semaines, en ligne, un comédien de Styria a été menacé de mort pour avoir fait une blague à connotation sexuelle sur Raqqa, sa ville natale. Blague mal reçue par les Syriens de la frange la plus radicale.
Il y a des gens qui sont trop islamistes et tu ne sais pas si tu vas les croiser sur ton chemin. Moi, je sais tenir un crayon, pas une arme. Si nous arrivons à rire ensemble, nous pouvons vivre ensemble.
Dans les cafés, les cinémas, les salles d'exposition, la fin de la dictature suscite des espoirs. L'arrivée au pouvoir d'Ayad Tahrir al-Sham, des débats, des discussions. À la Zawaya Gallery, Georges, cinéaste, et Roula, propriétaire des lieux, le passé djihadiste d'une partie du nouveau gouvernement l'interroge.
Des membres d'Ayad Tahrir al-Sham sont venus à la galerie et m'ont demandé d'enlever toutes mes sculptures, mes tableaux de nu, parce que c'est impur. Ils ne sont pas ouverts et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire.
La bonne chose maintenant, c'est que le pays est plus ouvert. Et puis prenons l'exemple du Qatar. C'est un pays islamiste, mais ils ont eu de superbes expositions. L'art n'y est pas si restreint, donc.
Car il y a une différence entre djihadiste et islamiste. Le passé du gouvernement est djihadiste.
Laissons le temps au gouvernement de faire ses preuves, répond Georges. Au moins, et contrairement à avant, ces débats sur l'art et la culture, nous pouvons les avoir librement.
Un reportage de Manon Chaplin et demain on va s'intéresser aux minorités religieuses, notamment aux Druzes, farouches opposants au nouveau pouvoir en place à Damas.
Tout un monde.
Et on va vous demander maintenant de tendre l'oreille. Le chant des oiseaux, celui-ci est enregistré près de notre studio qui se mêle au bruit de la ville, à notre activité. L'activité humaine justement cause le déclin de beaucoup d'espèces, 68% des vertébrés en 50 ans selon le WWF. Face à cette situation, de nombreux scientifiques alertent et ils sont de plus en plus à s'appuyer sur des relevés sonores. Enregistrer la biodiversité pour mieux l'étudier, c'est ce qu'on appelle la bioacoustique ou l'écoacoustique, des disciplines qui combinent biologie et acoustique. Alors la pratique n'est pas nouvelle, mais elle s'est beaucoup modernisé. Bonjour Mathilde Salamin.
Bonjour Cédric.
Pour étudier la biodiversité, particulièrement la faune, on dispose de toute une série de techniques, le suivi des traces, les pièges photographiques, l'échantillonnage. Alors quel est l'avantage du son sur ces méthodes ?
Eh bien, il permet d'observer l'invisible, en savoir plus par exemple sur les animaux marins qui se cachent dans les profondeurs. Il permet aussi de mesurer très précisément l'effet de l'activité humaine sur la biodiversité. Ça, Bernie Krause l'a bien compris, ce musicien et bioacousticien américain enregistre ce qui nous entoure depuis plus de 50 ans. En 2013, lors d'une conférence, il dresse un constat difficile.
Près de 50% de mes archives proviennent d'habitats aujourd'hui si radicalement modifiés qu'ils sont totalement silencieux, ou ne peuvent plus être entendus sous leur forme originale. Voici Lincoln Meadow, à 3h30 de route de San Francisco. En 1988, une société forestière a convaincu les gens du coin que l'environnement ne subirait absolument aucun impact avec une nouvelle méthode appelée l'abattage sélectif. Voici Lincoln Meadow avant l'abattage sélectif. J'y suis retourné un an plus tard, et voici ce que ça donne.
La différence, on l'entend bien. Les sons parlent d'eux-mêmes. Pas besoin d'être expert du domaine pour comprendre ce qu'ils disent. Cette accessibilité apparente, c'est ça aussi la force de l'écho-acoustique.
Alors Bernie Krause enregistre la biodiversité depuis la fin des années 60. La pratique n'est donc pas nouvelle. Pourquoi en parler aujourd'hui ?
Parce que les méthodes d'enregistrement se sont perfectionnées, affinées. On est entré dans une nouvelle ère de l'observation de la planète. C'est ce que m'a dit Hervé Glotin, directeur du Centre international d'intelligence artificielle en acoustique naturelle à Toulon. Son équipe réussit à capter les sons d'animaux marins à 30 km à la ronde. Imaginez Cédric, 30 km, ça fait loin. Ça, par exemple, c'est le chant d'un globicéphale. Biologistes, électroniciens et informaticiens ont aussi mis au point des cartes électroniques ultra-performantes, des drones et des intelligences artificielles embarquées. Elles permettent un gain de temps considérable. Ces IA sont capables de séparer les sons et de les reconnaître. Le chant du rouge-gorge, le vrombissement des voitures ou le chant des baleines notamment. Bien que, attention, il faut le préciser, l'IA a aussi ses limites. Difficile, voire impossible pour ces modèles d'identifier les animaux rares ou inconnus.
Et quelles informations intéressantes est-ce qu'on peut tirer de ces enregistrements ?
Par exemple, en étudiant les sons émis par les cachalots, Hervé Glotin et son équipe en savent plus sur la manière dont ces animaux chassent et s'organisent. Ces clics sont émis par deux cachalots enregistrés au large de Saint-Tropez.
C'est assez fascinant d'écouter cette organisation qui se produit à moins 1000 mètres sous la surface.
Hervé Glotin.
De la calculer, de la décortiquer et de comprendre que si on rajoute un bruit de bateau dans ce système de communication entre les animaux, on casse la communication entre eux et on casse leur capacité de chasser efficacement dans ce milieu. Et donc, on les affaiblit considérablement et la pente démographique peut chuter assez vite.
La bioacoustique fournit donc des preuves, des données qui deviennent des leviers politiques.
Et justement, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui découlent de tout ça ?
Oui, Hervé Glotin m'a donné un exemple.
On a eu l'opportunité de faire des mesures sur une compétition de jet ski. Et donc, on a pu montrer les émissions de ces types de bateaux qui sont particulières, qui sont assez hautes en fréquence, qui émettent dans des domaines où il y a très peu d'émissions produites par l'humain. Et donc, ces signaux-là sont de nature à perturber d'une manière nouvelle l'écosystème. Et donc, l'essentiel des compétitions de jet ski en France ont été suspendues suite à ce constat.
Mathilde, vous nous parlez beaucoup du monde marin. Ce type d'étude y est plus fréquente ?
Historiquement, oui, mais aujourd'hui, les forêts sont aussi régulièrement enregistrées, écoutées, étudiées. Giacomo Delgado, doctorant à l'EPFZ, a mené une étude de grande ampleur en collaboration avec le gouvernement du Costa Rica et des universités du pays. Ils ont déployé des enregistreurs sur 600 sites différents, comparant forêts intactes et forêts en régénération. Leur but, évaluer le niveau de santé de la biodiversité sur place.
So much in the same way.
Notre démarche s'apparente à celle d'un médecin. Lorsque vous allez chez votre médecin, il ausculte votre cœur. Mais comment sait-il à quoi ressemble un rythme cardiaque normal ? Eh bien, il écoute les battements de nombreuses personnes en bonne santé. Il a ainsi appris à reconnaître un rythme cardiaque sain. C'est en quelque sorte la même approche que nous avons adoptée. Nous avons vérifié si les sons des forêts étudiées se rapprochaient de ceux des forêts en bonne santé.
Ici, Giacomo Delgado ne se focalise pas sur une espèce, un animal, il étudie l'ensemble de la forêt.
Enregistrer l'ensemble du paysage sonore nous offre une image complète. Il ne s'agit pas seulement des animaux, mais aussi de la manière dont la pluie résonne dans une forêt. Par exemple, dans un pâturage, une prairie, lorsqu'il y a de la pluie, on l'entend. Mais dès qu'elle s'arrête de tomber, le son s'arrête net. En revanche, dans une forêt en bonne santé, diversifiée avec de grands arbres, des petits arbres, des arbustes, des graminées, l'eau s'écoule sur ces arbres, sur les feuilles, les herbes, et produit un son qui perdure longtemps après la fin de la pluie. Ce sont de subtiles nuances. Mais grâce à l'utilisation du son, nous espérons pouvoir commencer à les appréhender.
Pour finir, Cédric, et vous qui nous écoutez, je vous propose que l'on se taise quelques secondes pour laisser place au plus beau son du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est un jury de professionnels. Une biophonie enregistrée par Mark Anderson. Nous sommes à Bornéo, au crépuscule, et des petites grenouilles coassent depuis des troncs d'arbres morts.
Voilà, le plus beau son du monde, les grenouilles de Bornéo. On ne s'en lasse pas et on va même le garder un petit peu pour terminer notre émission. Tout un monde, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain. D'ici là, vous pouvez bien sûr nous podcaster ou nous réécouter sur Play RTS. Dans 3 minutes, c'est On en parle. Ce sera juste après les infos de Frédéric Mamaïs. Il est 8h30 sur RTS Première.
Une lave torrentielle est tombée sur Lourtier dans le Haut-Val-de-Bagne. Le torrent de Fraignolet s'est déchaîné. Comme l'année dernière, Lourtier se retrouve donc une fois encore bloqué. Pour l'instant, les habitants ne peuvent plus descendre dans la vallée. Un nationaliste succède à un nationaliste à la présidence de la Pologne. Au terme d'une bataille très serrée, l'historien Karol Nawrocki a remporté 50,89% des voix face au maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Lors du second tour, Karol Nawrocki a obtenu le soutien du PiS, principal parti d'opposition au droit et justice et de l'administration Trump. Il succédera à Andrzej Duda. Les chefs de la diplomatie russe et américaine se sont parlé hier soir. Sergueï Lavrov s'est entretenu au téléphone avec son homologue Marco Rubio, notamment pour évoquer le nouveau cycle de pourparlers avec l'Ukraine qui doit démarrer aujourd'hui à Istanbul. Istanbul où la délégation ukrainienne vient d'arriver. L'Ukraine qui a lancé hier la plus vaste attaque de drones contre la Russie depuis le début de cette guerre. Des aérodromes militaires russes ont été visés hier jusqu'à l'extrémité de la Sibérie. La Russie annonce de son côté avoir abattu cette nuit 162 drones ukrainiens, dont la majorité dans les régions frontalières de Koursk et de Belgorod. Skyguide réduit de 20% dès ce matin et jusqu'à nouvel avis la capacité d'approche à l'aéroport de Genève. En raison d'un problème technique latent sur les images radar depuis quelques mois, Skyguide, qui surveille l'espace aérien, précise que la sécurité du trafic n'est cependant pas compromise. Le taux hypothécaire de référence reste inchangé à 1,5%, annonce l'Office fédéral du logement. Ce taux détermine le calcul des loyers en cours de bail. Il avait été réduit de 0,25% début mars, ouvrant alors la porte à des demandes de réduction de loyer par les locataires à compter du mois de juillet. Un homme de 29 ans a été retrouvé mort dans le port de Morges hier. Le corps de ce Suisse domicilié à Prix a été repêché par les plongeurs de la police dans l'après-midi. La victime avait passé la nuit avec des amis sur un voilier amarré au port. Il était introuvable au matin. Une enquête est ouverte. L'intervention d'un tiers semble exclue à ce stade. L'opération a nécessité la fermeture du port pendant 4 heures. Enfin, il n'y a pas eu d'exploit pour Bienne en finale de la Coupe de Suisse de football, battue 4-1 hier par Bâle qui réalise le doublé Coupe Championnat. Ce résultat fait aussi les affaires du Lausanne Sport, désormais assuré de jouer la Coupe d'Europe. Et en cyclisme, le Britannique Simon Yates s'est adjugé le Tour d'Italie. La dernière étape a été remportée à Rome par le Néerlandais Olaf Koy.
On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Bonjour, on en reçoit des dizaines par jour, parfois on ne les ouvre même pas. Ce sont nos courriels et à notre guichet, ce matin, on va se demander comment les rédiger, ces courriels. Laurence Froidevaux, bonjour Laurence.
Bonjour merveilleux producteur Philippe. Oui, on va se demander comment être poli sans être obséquieux, chaleureux mais pas trop, formel mais pas glacial. Parfois ça peut être un casse-tête que d'écrire des courriels et surtout on a envie d'être lu et d'être compris.
Et on reçoit tout à l'heure deux spécialistes du langage. Et vous, si vous êtes parfois emprunté avant de rédiger un mail à votre famille, aux impôts ou à votre amant, appelez-nous, écrivez-nous 0800 108 208 ou par messagerie au 076 206 12 12. Avant cela, tenez-vous. Tenez-vous, c'est le mot d'ordre d'une campagne de sécurité dans les transports publics. Bonjour Isabelle Fio.
Bonjour Philippe. Oui, il y a environ 1000 accidents en Suisse par année dans les transports publics. Des soucis qui pourraient souvent être évités. Alors on passe en revue toute une série de recommandations dans un instant avec notre invité.
Enfin, dans une douzaine de minutes, on répondra à une question qui a suscité de grands débats au sein de l'équipe. Est-ce que l'alcool en cuisine résiste à la cuisson, Marie Tchoumi? Bonjour Marie.
Bonjour Philippe. Alors la réponse est oui, l'alcool résiste à la cuisson. Donc il en restera toujours un petit peu, même s'il s'évapore avec la chaleur. Reste à savoir si c'est risqué pour les personnes souffrant d'addiction, les femmes enceintes, allaitantes ou encore les enfants. Un spécialiste nous aidera à y voir plus clair.
Une heure et demie d'infos utiles au quotidien, c'est On en parle avec José Moreno et en régie et Willy Dezelu au platine. Soyez les bienvenus.
Philippe Gérard.
En matière de sécurité des passagers dans les transports publics, on peut faire mieux. Selon les chiffres de l'Office fédéral des transports, on dénombre environ 1000 accidents par année. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis 2015, Isabelle Fio.
Oui, on est passé de 600 accidents à 1000 en quelques années. L'Office fédéral des transports en a analysé les causes. Il s'agit souvent d'un problème dans le trafic qui nécessite un freinage d'urgence. Mais dans la moitié des cas, c'est le comportement des voyageuses et voyageurs qui est en cause dans les bus et dans les trains. L'Union des transports publics lance donc une campagne nationale de sensibilisation à laquelle participent notamment les transports lausannois.
Bonjour Alexandre Kalpfus.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes responsable expérience clientèle au transport lausannois, donc les TL. Alors vous aussi au TL, vous constatez une hausse des accidents ces dernières années ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à rassurer notre clientèle sur le fait que les transports publics en Suisse sont très sûrs, parmi les plus sûrs au monde. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison, il y a une augmentation des accidents, des petits accidents dans nos transports. On peut distinguer trois familles d'accidents. Donc la première, c'est lors des montées et descentes dans du véhicule. La deuxième famille, qui est peut-être un peu moins connue, c'est finalement l'arrivée à l'arrêt et le départ de l'arrêt. Et la troisième famille qui est assez évidente, c'est liée au freinage, d'où l'importance de se tenir fermement à tout moment, qui est justement l'essence de cette campagne.
Oui, ça, on voit bien le freinage, hein, quel type d'accident ça peut provoquer. Mais quand on entre dans le bus ou dans le tram ou dans le métro, ou quand on sort, on voit pas quel type d'accident. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là?
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment une rythmique. Lorsque vous arrivez à un arrêt de transport public, déjà, la première chose, c'est vraiment de laisser sortir les gens. Parce que des fois, il y a des flux qui s'entrechoquent, il y a des gens qui se précipitent, qui sont un peu stressés et qui vont vouloir rentrer dans le véhicule, et des personnes qui vont vouloir sortir. Et ça peut déjà créer une première chute. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire preuve de civisme, de laisser sortir les gens. Ensuite, vous avez la possibilité, avant de rentrer, de réappuyer sur le bouton, ce qui va vous laisser plus de temps en fait, et éviter que les portes se referment sur vous. Donc pour ça, on a alors justement le bouton, vous l'appuyez. Ensuite, vous rentrez, il y a des barres qui vous permettent de vous tenir et de vous positionner correctement. Idéalement, si vous pouvez vous asseoir, l'idéal, c'est de rapidement vous asseoir pour libérer de la place. Mmh. Et si vous pouvez pas, trouver un endroit pour vous tenir fermement.
Alors justement, la campagne se concentre sur certains messages, donc deux messages clés pour éviter au maximum les incidents. Alors effectivement, vous venez de le dire, donc bien se comporter en montant, en descendant, ça veut dire que même en montant, il faudrait garder le bouton appuyé, c'est ça que vous disiez?
Alors exactement, vraiment l'important, c'est à chaque fois, que ce soit lors de la montée ou lors de la descente, vous réappuyez sur le bouton, ça va vous donner un laps de temps suffisant pour éviter que les portes se referment. Et donc ça, c'est vraiment un geste à prendre en considération. Et ensuite, lors de tous vos déplacements dans les véhicules, de vous tenir fermement à des barres ou aux poignées qui sont à disposition, effectivement.
Ça, effectivement, c'est la deuxième règle d'or, oui. Toujours se tenir dans le véhicule. Bon, vous l'avez dit, hein, il faudrait se dégager les portes dans les fêtes au moment clé de la journée, enfin au moment où il y a beaucoup de monde, c'est difficile. Et puis, on voit bien aussi la difficulté pour les personnes à mobilité réduite, comme les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est aussi une question de que les autres leur laissent la place.
Alors pour les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques de manière générale, effectivement il y a vraiment le côté le civisme, le côté solidaire dans les transports publics, c'est-à-dire que si vous voyez une personne âgée, justement laissez-leur la place, demandez-leur si tout d'un coup ils ont un sac de commission, de les aider, vraiment de faire preuve de civisme vis-à-vis de ces personnes. Et puis si vous êtes en fauteuil roulant ou une personne âgée, surtout la première règle, c'est de vous rendre visible vis-à-vis du conducteur. Donc n'hésitez pas à lever la main à l'arrêt pour montrer que vous prenez ce véhicule, parce qu'il se peut que sur un arrêt de transport public en centre-ville. Il y a plusieurs lignes et le conducteur ne sait pas forcément que c'est sa responsabilité. Donc il y a un contact visuel, vous levez la main et à ce moment-là, le conducteur va avoir une attention particulière. Il va peut-être lui-même retenir les portes plus longtemps pour s'assurer que vous soyez monté dans le véhicule. Et pour une personne en fauteuil roulant, justement, ça permet au conducteur de sortir rapidement, de déployer la rampe et de positionner la personne à l'emplacement dédié pour les personnes en fauteuil roulant. Et ça, c'est vraiment des gestes importants à prendre en considération et surtout pas se précipiter sans faire ces différents gestes.
Marie ?
Oui, là on parle des bus où on peut appuyer sur le bouton pour pouvoir garder la porte ouverte, faire signe au chauffeur. Oui. Métro, il n'y a pas de chauffeur et puis il n'y a pas de bouton. Donc on fait comment ? Le M2 par exemple. Alors, les portes se ferment mais il faut pas rater le coche.
Alors pour le M2, effectivement, la première règle, c'est dès que vous entendez,
un petit signal sonore,
effectivement, dès que vous entendez ce signal sonore, c'est très important de ne plus essayer de rentrer dans le véhicule. J'ai pu voir pas plus tard que ce matin en prenant le M2 qu'il y a une personne qui a essayé de courir et finalement elle a glissé avant de pouvoir rentrer dans le véhicule parce qu'elle a voulu justement forcer un peu la porte et c'est vraiment important de respecter ces règles. Il n'y a pas de conducteur, effectivement, c'est un métro automatique. Le métro le plus ponctuel au monde qui a une cadence de 2 minutes. Donc si vous le ratez, c'est pas très grave. Il y en a un autre qui va arriver rapidement. Il faut aussi savoir une chose qui est peu connue, c'est qu'on a des bornes d'assistance à chaque quai du M2 qui permettent justement, si vous avez des besoins particuliers, notamment c'est très utilisé par les maîtresses qui sont avec des écoliers, ils vont dire, écoutez, je vais de tel arrêt à tel arrêt, donc ils appellent le poste de contrôle et puis on va pouvoir manuellement retarder les portes si nécessaire et s'assurer que tous les enfants soient bien montés. Donc il y a cette assurance, mais par contre effectivement, dans le M2, il faut essayer de rentrer rapidement, vous tenir fermement, c'est des trajets courts, mais effectivement, vu qu'il n'y a pas de conducteur, il peut avoir des freinages d'urgence et c'est vraiment important de se tenir à tout moment, fermement.
Se tenir, c'est effectivement la deuxième règle d'or. Bon, l'autre chose, c'est qu'effectivement, la campagne de sensibilisation se concentre sur les bus et les trams. Hein.
Oui.
La vérité, c'est que ces véhicules, souvent, ils roulent très vite ou ils démarrent très vite et les gens n'ont pas forcément le temps de s'asseoir ou de s'accrocher, en fait.
Tout à fait. Alors là, c'est vraiment le point, pour moi, le point clé que vous touchez, c'est vraiment l'arrivée à l'arrêt, le démarrage. Il faut savoir que la topographie de Lausanne, comme vous le savez, il y a des fortes pentes. On est sur des véhicules qui font entre 12 à 24 tonnes. Les doubles articulés, que vous avez peut-être l'occasion de voir, dans le concept de bus à un niveau de service, ils peuvent faire jusqu'à 24 tonnes vides. Donc en fait, on se rend compte, déjà rien que par rapport à ça, au niveau physique, que c'est des véhicules lourds dans une forte pente. Donc l'arrivée à l'arrêt, le démarrage peut être assez violent. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'attendre que le bus soit complètement arrêté avant de vous lever, d'appuyer sur le bouton, ce qui va vous laisser suffisamment de temps pour sortir. Et si vous appuyez justement sur le bouton fauteuil roulant, à ce moment-là, la porte va plus fermer automatiquement. C'est le conducteur qui va pouvoir la fermer manuellement. Et ça, c'est une assurance pour les personnes à besoins spécifiques. Le conducteur va attendre que vous soyez complètement sorti avant. Et si vous respectez cette règle, vraiment, c'est des gestes simples qui sont justement portés par cette campagne qui est soutenue par 30 entreprises dans toute la Suisse. Vraiment, le fait de se tenir, de respecter ces gestes simples et qui peuvent diminuer jusqu'à 50% de ces types d'accidents. Donc, c'est vraiment très important.
Mais des fois, on est limité pour pouvoir respecter ces consignes. Quand, par exemple, aux heures de pointe, les bus sont bondés. On n'arrive pas forcément à trouver une poignée où se tenir. On est contenu par les autres passagers, mais franchement, c'est pas très agréable.
Non, effectivement. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il faut savoir que souvent les flux à l'intérieur du véhicule sont répartis pas forcément de manière homogène. Il y a une tendance des personnes à aller vers la porte 2, donc la porte qui se trouve à gauche du conducteur. Naturellement, en fait, la plupart des personnes vont aller à ces portes-là. C'est des portes qui sont plutôt dédiées aux personnes à besoins spécifiques. Justement, il y a les sièges pour les personnes âgées qui se trouvent sur la droite. Il y a 4 sièges prioritaires pour les personnes à besoins spécifiques. Il y a l'emplacement pour les fauteuils roulants. Donc en fait, c'est un emplacement qui est déjà très saturé. Donc si vous n'avez pas besoin spécifique, mon conseil, c'est déjà d'aller plutôt à l'arrière du véhicule, ce qui va permettre de mieux répartir les flux. Mais effectivement, après, c'est une question de civisme. Si vous avez un sac à dos, peut-être de l'enlever pour laisser de la place, de vous positionner à des endroits qui ne gênent pas trop. C'est vraiment... Et il y a vraiment un savoir-être, un savoir-vivre qui est très important et c'est comme ça qu'on va rendre les transports publics plus conviviaux et plus sûrs aussi.
Ouais. Et puis bien sûr, il y a les conducteurs et conductrices qui ont un gros rôle de par leur manière de rouler. Et puis bon, bien sûr, il y a le trafic extérieur, ça c'est évidemment la première chose à gérer. Mais quand même, comment est-ce que eux, ils sont formés pour éviter les accidents? Parce qu'on imagine qu'ils doivent tenir un horaire.
Alors, le personnel de conduite, ils font un travail vraiment exceptionnel parce qu'on est vraiment... comme vous le voyez, la circulation à Lausanne, elle est très compliquée. Ils sont formés effectivement tout au long de leur parcours. Donc, dès la formation initiale, ils ont des formations continues par rapport à ces thématiques. On a des sensibilisations régulières. On travaille vraiment main dans la main aussi avec les associations. Donc, il y a une sensibilisation. Il y a tout un travail qui est fait de notre côté. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'au niveau des priorités pour la conduite, on appelle un podium avec les trois priorités. Et puis, la priorité numéro un, c'est clairement la sécurité. Ensuite, c'est le confort de conduite, donc finalement la conduite brusque, conduite agréable, les démarrages, les freinages. Et puis, en troisième position, c'est l'horaire. Donc, il faut vraiment être conscient que quand le conducteur va vous prendre en charge, c'est vraiment la sécurité avant tout, et les autres choses sont secondaires. Par contre, vous avez vraiment un rôle à jouer. Avec ces gestes, vous pouvez nous permettre d'être diminué de 50%. Et c'est vraiment ça le message. C'est entre vos mains, c'est l'essence de la campagne et c'est à vous de jouer.
Dernière question rapidement. Si on s'est fait mal lors d'une chute dans un véhicule, à qui est-ce qu'on peut s'adresser?
Alors, il y a trois possibilités. Si c'est une chute grave, le conducteur va venir s'enquérir de votre état. S'il y a besoin de secours, il va aller appeler le poste de contrôle qui va appeler une ambulance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez fait une chute et que vous pouvez continuer votre voyage, il va vous remettre un petit fichier qui va quittancer finalement le fait que vous avez eu une chute et qui va faciliter les démarches administratives. Et la troisième et dernière, c'est si tout d'un coup vous souhaitez partager une expérience positive ou négative, nous avons le service client qui est là pour répondre à toutes vos questions et n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on s'améliore également.
Des dédommagements existent?
Alors justement, il y a un département litige et assurance et puis il y a un suivi administratif qui est fait, il y a des prises en charge qui sont faites en fonction des cas, mais c'est toujours plus facile si vous avez ce petit fichier parce que comme ça, ça permet de justifier qu'il y a vraiment eu une chute qui a été quittancée par le conducteur.
Donc si on résume vos conseils ce matin, donc toujours se tenir si on est debout, on n'y pense pas toujours, si on est assis, ne pas se lever trop tôt avant son arrêt et presser sur le bouton d'ouverture des portes en descendant, même chose en montant dans le véhicule, et puis bien sûr libérer les portes pour que les gens puissent sortir ou trouver une place rapidement, surtout ceux et celles à mobilité réduite.
Voilà, et puis faire preuve de civisme, vous
exactement,
l'avez dit.
Exactement, c'est ça.
Voilà, merci.
Et la sécurité, donc c'est l'affaire de tous et c'est entre vos mains.
Merci Alexandre Calpous, responsable expérience clientèle au transport lausannois. Très bonne journée.
Merci.
Et dans un instant, on répondra à cette question brûlante. En tout cas, elle a suscité beaucoup de débats au sein de notre rédaction. Est-ce que l'alcool s'évapore à la cuisson dans les mets chauds qui en contiennent? So what if she likes to dress like a fairy tale princess? Daydreaming she's a star next, and she glitters till 4 a.m. She was a moonflower coffee addict, painted pink walls in her attic. Everything was so romantic then. She was a moonflower telepathic, told herself that she was magic, 'cause she never grew out of it. I'm a moonflower, so dramatic, loving girls so much it's tragic. Swinging for the picket fence, 'cause I'm loving that cherry kiss. That cherry kiss. I'm a moonflower, maladaptive, mirror dancing, soft and manic. Look at me, I'm so romantic now. 'Cause I'm a moonflower, kinda graphic, but it's always cinematic, till it all comes crashing down. I'm a moonflower, so dramatic, loving girls so much it's tragic. Everything is so I'm Moonflower, l'artiste zurichoise Milune, dont vous pouvez retrouver le concert exclusif enregistré par la RTS sur Play RTS, un concert en mix stéréo binaural. Il a été diffusé le 18 avril dernier sur RTS Première. C'est une question redondante ici, on en parle, qui aura enfin sa réponse aujourd'hui avec vous Marie Tchoumi. Quand on prépare des plats avec de l'alcool, est-ce qu'il s'évapore totalement lors de la cuisson?
Et je peux déjà vous dire que non, ce n'est pas le cas. Une recherche faite à l'étranger est catégorique à ce propos. L'alcool ne disparaît pas totalement à la cuisson. Il y en aura donc toujours un petit peu hein, et la quantité restante va dépendre d'un grand nombre de facteurs. Mais c'est surtout le temps de cuisson qui va être déterminant.
Donc assez logiquement, plus la cuisson sera brève, plus il en restera.
Exactement, Philippe. En moyenne, après 15 minutes de cuisson, il y en a encore 40%, 25% après une heure et même 5% après plus de 2 heures de cuisson. Sans compter que c'est seulement à partir de 78 degrés que l'alcool commence à s'évaporer.
Et de quoi se demander si c'est problématique pour les personnes à risque. On en parlera dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, Marie, un autre détail étonnant sur l'alcool en cuisine.
Oui, pour vous démontrer que l'alcool se trouve parfois là où on s'en douterait le moins. Quand vous mijotez un coq au vin à la maison, une sauce bolognaise, des bananes flambées au rhum ou une fondue, vous ajoutez vous-même l'alcool, vous décidez de la quantité que vous voulez mettre et surtout, vous pouvez choisir de le remplacer ou non par autre chose comme du bouillon. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que des produits largement consommés contiennent eux aussi de l'alcool et on s'en douterait pas une seconde.
Par exemple,
il y a quelques années, la Fédération romande des consommateurs, la FRC, a établi une liste de produits alcoolisés. Je suis donc allée à mon tour dans les supermarchés pour voir si c'était encore le cas et je suis parvenue au même résultat que la FRC. Étonnamment, on trouve effectivement de l'alcool dans des pains pour les burgers, dans la pâte à pizza, le pain pré-cuit, le bisque de homard, les petits roulés à la framboise ou encore dans la sauce cocktail.
Et on sait s'il y en a beaucoup dans ces produits ?
Alors la quantité précise n'est pas indiquée. Par contre, les termes alcool ou éthanol arrivent souvent parmi les derniers ingrédients de la composition de ces produits, donc on peut partir dans l'idée qu'il y en a peu.
Bonjour Nicolas Berthollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin-chef au service de médecine des addictions du département de psychiatrie du CHUV. Consommer un plat qui contient encore de l'alcool, même en petite quantité, comme des spaghettis à la bolognaise ou de la fondue, est-ce que c'est problématique pour les personnes qui sont dépendantes à l'alcool ?
Alors c'est une bonne question parce que ça pose la question de savoir si c'est la présence d'éthanol qui peut poser un problème pour des personnes qui seraient dans une démarche d'arrêt de consommation d'alcool. Alors le fait d'être exposé au goût de l'alcool, c'est quelque chose qui peut faire revenir des envies parfois irrépressible de consommer. Et ça, c'est pas véritablement lié à la quantité. Et ça peut aussi être lié à des questions de type de contexte. Par exemple, si je suis dans une démarche d'arrêter de boire, d'avoir comme ça une bouteille d'alcool sur mon plan de travail lorsque je suis en train de cuisiner. Ça, en tant que tel, c'est quelque chose qui peut être compliqué, un contexte auquel il peut être compliqué d'être confronté.
Et s'il reste de l'alcool dans des spaghettis bolognaises, par exemple, est-ce que ça peut être un problème pour les femmes enceintes, allaitantes ou peut-être même les enfants ou la fondue typiquement, on a tendance à la manger en famille. Et ça peut être problématique.
Alors ça pose l'autre question. C'est là de se dire que on sait que l'alcool est une substance qui est carcinogène, neurotoxique et puis que pour notamment pour les enfants ou pour les fœtus, c'est quelque chose qui peut représenter un risque. Les recommandations, on ne sait pas exactement s'il y a un niveau qui ne représenterait pas de risque. Du coup, lors de la grossesse ou pour les enfants, la recommandation est vraiment de ne pas avoir d'exposition à l'alcool. Et dans ces cas-là, on peut être confronté à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être de faire le choix de remplacer l'alcool par quelque chose d'autre. Maintenant, pour ce qui est de peut-être de la présence d'éthanol dans du pain de mie et des choses comme ça, là, on peut imaginer que c'est des quantités qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé. Mais c'est vrai que la recommandation pendant la grossesse et pour les enfants, c'est absence de consommation de produits, de boissons alcoolisées notamment, qui est le message le plus important.
Mais quelle serait, vous parlez de quantité, quelle serait la quantité minimale qui pourrait provoquer une réactivation de la dépendance, par exemple, pour une personne dépendante ?
Alors, ça, c'est pas véritablement du coup une question de quantité, parce qu'on peut même, disons, un contexte dans lequel il n'y aurait pas d'alcool du tout, bon, par exemple un emballage, même une boisson sans alcool qui pourrait avoir un emballage qui évoque une boisson alcoolisée, est quelque chose qui peut remettre en route des pensées, des envies d'alcool.
Donc c'est plus le contexte pour vous que la présence d'alcool proprement dite.
Alors les deux peuvent jouer un rôle, c'est-à-dire que le goût évidemment peut réactiver c'est des envies, mais pas seulement. Justement, la question du contexte, la question de l'omniprésence finalement de l'alcool dans notre quotidien, et ça peut être dans un contexte, parce que c'est dans le contexte dans lequel je pouvais être habitué à consommer précédemment, mais aussi par l'exposition, par la publicité, sur les médias sociaux, films, etc., qui peuvent justement amener comme ça à des envies de consommation.
Donc, si je vous comprends bien, quand on cuisine un plat à la maison, donc pour les femmes enceintes, les personnes qui souffrent peut-être d'addiction, on va éviter de faire un plat avec de l'alcool, donc par exemple des spaghettis bolognaise avec du vin rouge ou de la fondue. Par contre, pour les produits qui en contiennent, et on s'en douterait pas, on l'a dit tout à l'heure, la pâte à pizza, ça c'est pas un problème, on peut y aller.
Alors, je pense que c'est bien d'être informé sur ce qu'on mange. Hein. C'est vrai que dans ces cas-là, il y a un peu deux situations. Dans les situations que vous évoquez, il y a le fait d'ajouter de l'éthanol comme conservateur ou pour la texture dans certains produits. Alors là, on peut peut-être se demander si c'est nécessaire ou pas. Et puis, ça peut être mieux de manger un pain peut-être qui va se conserver moins longtemps. C'est plutôt une question de cuisine. Mais dans ces situations-là, le risque pour la santé est pas significatif. Pour des plats où il y aurait des quantités plus importantes ou dans certaines boissons qui sont labellisées sans alcool, là, on peut avoir des quantités d'alcool en fait qui peuvent devenir quand même assez significative. Un des exemples qui est peut-être peu connu, c'est les boissons fermentées de type kéfir, kombucha, qui en particulier, si elles sont faites à la maison, homemade, comme ça, avec une fermentation qui peut, disons, se poursuivre au cours du temps. Là, on peut arriver à des taux d'alcool qui sont de l'ordre de 2-3%, donc quelque chose des bières légères. Donc, c'est sûr que pour ça, là, disons, de le donner à un enfant, disons, ce serait pas exactement le plus approprié.
Parce que finalement, on peut trouver un peu de l'alcool aussi dans des bananes qui commencent à pourrir.
Oui, les bananes bien mûres.
bien mûres, même du jus de fruits, hein, selon.
Oui, alors
là, c'est minime.
C'est ça, c'est tout ce qui y a peu. Il peut y avoir de l'alcool dans les produits, soit parce que c'est ajouté comme conservateur pour la texture, soit dans des produits où la fermentation peut avoir lieu, et très clairement où les fruits peuvent fermenter, les bananes, le jus de fruits, etc.
Et puis, il y a évidemment la problématique des bières sans alcool, qui ne sont pas sans alcool. Alors, à distinguer, on peut écrire sans alcool, mais il peut y en avoir jusqu'à 0,5. Et même maintenant, il existe aussi des bières vraiment sans alcool, 0,0. Et ça c'est bien notifié.
C'est ça, la réglementation suisse fait que on peut indiquer produits sans alcool pour des quantités qui vont jusqu'à 0,5%. Donc c'est vrai que certaines bières sans alcool contiennent des quantités d'alcool, et là c'est important pour les personnes qui veulent éviter l'exposition à l'alcool de se renseigner si c'est une bière qui contient un peu d'alcool ou au contraire.
Et pas pareil pour les enfants, les femmes enceintes, on va éviter ça.
Voilà, et pour les enfants, il y a la question de la normalisation d'alcool, disons le fait de donner un produit qui ressemble à une bière.
Une petite canette.
Enfant, ce serait pas, ça pose d'autres questions.
Effectivement, ça soulève d'autres questions. Merci beaucoup Nicolas Berthollet d'être venu en direct dans cette émission, médecin-chef au service de médecine des addictions du département de psychiatrie au CHUV. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Tout recommence, la vie.
bien des drames. Et voilà, c'est une longue histoire. Un homme. Forger la crème du hasard, comme nos voix, madame, madame.
Un homme et une femme, en l'occurrence ici Thomas Dutronc et Stacy Kent qui chabadabadaient en duo. Êtes-vous du genre à terminer vos mails par cordialement, meilleure salutation ou veuillez agréer, chère madame, l'expression de nos sentiments distingués ou alors un simple merci, bonne journée et à bientôt vous suffisent. À notre guichet de tout à l'heure, on va s'interroger sur le bon ton, les formules adéquates à adopter dans notre correspondance, qu'elles soient papier ou numérique, mais elles sont de plus en plus numériques, donc on va évidemment beaucoup parler de nos emails. On attend vos questions, vos remarques, vos anecdotes au 0800 108 208 ou alors un message instantané. Vous n'êtes pas obligé de mettre les formes d'ailleurs au 076 206 12 12 ou alors un simple courriel. On en parle à rts.ch.
L'heure avec Abacus et son logiciel de gestion d'entreprise, abacus.ch.
On en parle, vous retrouve après le journal que voici sur RTS 1ère.